Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Christophe Jubien est à la technique. Je vous souhaite une belle journée. Que cette journée soit vraiment bonne. Et laissez-moi vous adresser cette belle salutation que l'apôtre Paul utilisait lorsqu'il écrivait une lettre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix pour votre vie et vos soucis. Grâce et paix pour vous et pour ceux que vous aimez. Grâce et paix pour ce jour et pour les temps qui viennent. Entendre la grâce, accueillir la paix.
Fais silence. Ouvre les oreilles. Écoute l'évangile de ce jour. Une parabole qui nous est racontée par Luc au chapitre 16 de son évangile. Nous lirons les versets 19 à 31. Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre, appelé Lazare, est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche. Mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors il lève les yeux. Et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. » Abraham lui répond, « Mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur et Lazare, lui, a reçu le malheur. » Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire, et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. Le riche lui dit, « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir, pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répond, « Tes frères ont Moïse et les prophètes, ils doivent les écouter. » Le riche lui dit, « Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. » Mais Abraham lui dit, « Ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. »
I am a roving gambler, I gamble all around. Whenever I meet with a deck of cards, lay my money down. Lay my money down, lay my money down. I had not been in Washington, many more weeks than 3. Met up with a pretty little girl. She fell in love with me. She fell in love with me. Fell in love with me. She took me in her parlor. She cooled me with a fan. She whispered low in a mother's ears, I love that gambling man. Love that gambling man. Gambling man. Oh daughter, oh dear daughter, how can you treat me so? Leave your dear old mother, and with that gambler go. With that gambler go. With that gambler go. Mother, oh dear mother, you can't.
parabole n'est pas particulièrement agréable à écouter car elle parle de lieux infernaux où l'on souffre beaucoup et de séparation radicale sur laquelle il est impossible de revenir. Et pourtant, elle se trouve dans l'Évangile. Nous sommes donc invités à la relire à la recherche de la bonne nouvelle qu'elle pourrait contenir pour nos vies. Tout d'abord, il est bon de remarquer qu'il s'agit d'une parabole, c'est-à-dire d'une histoire qui nous est racontée pour nous transmettre un message. De nos jours encore, il est courant d'entendre des histoires de paradis et d'enfer pour parler de ce monde-ci. Prenons l'exemple d'un de ces récits. C'est l'histoire d'un roi et d'un prêtre qui meurent et qui se présentent devant Saint-Pierre. Celui-ci donne son verdict, le roi ira au paradis et le prêtre en enfer. Un témoin surpris demande à Saint-Pierre les raisons de son choix et ce dernier répond, le roi va au paradis parce qu'il a écouté ce que lui disait le prêtre. Le prêtre va en enfer parce qu'il a écouté ce que lui disait le roi.
Cette histoire parle de paradis et d'enfer, mais nous savons bien que son message est ailleurs. Dans cet exemple, le paradis et l'enfer sont des images pour parler des rapports entre le religieux et le politique. Il en est de même dans la parabole de l'Évangile que nous avons lue. Son message principal n'est pas l'existence du paradis et de l'enfer, elle parle de ce monde-ci et de la relation entre les riches et les pauvres. Nous verrons que ce message n'est pas sans lien avec notre actualité. Pour l'entendre, arrêtons-nous sur ce qui est dit des deux personnages principaux.
Le riche. Il est décrit comme un homme qui a des vêtements très beaux. Il est dit aussi qu'il fait la fête tous les jours. On peut se poser la question, en quoi est-ce un mal de porter des beaux habits et de faire la fête ? La Bible ne décrit-elle pas le royaume de Dieu sous les traits d'une salle de noces dans laquelle il faut avoir revêtu des habits de fête ? Dans la parabole, il n'est pas dit du riche qu'il faisait simplement la fête, mais qu'il la faisait tous les jours. D'abord, on peut se demander si le fait de faire la fête tous les jours n'est pas une négation de la fête. Le propre d'une fête est de célébrer un événement, c'est d'opérer une rupture dans l'enchaînement des jours. Si c'est tous les jours, ce n'est plus une fête, cela devient une habitude. Nous avons le sentiment que toute l'attention du riche est concentrée sur la fête, au point d'oublier le pauvre qui est couché à la porte de sa maison.
À la différence du riche, le pauvre n'a pas de beaux habits, mais il est couvert de plaies. Il ne fait pas la fête tous les jours, mais serait sûrement heureux de manger ne serait-ce que les miettes qui tombent de la table du riche. Ses seuls compagnons sont les chiens qui lui témoignent d'un peu de compassion en léchant ses plaies. Cette parabole décrit un monde dans lequel les riches sont enfermés dans leurs richesses et organisent des fêtes somptueuses en ignorant les pauvres qui vivent dans la misère et la maladie aux portes de leur ville et de leur maison. Comment ne pas y voir une image de notre monde qui est devenu un village global au sein duquel les inégalités se creusent et les classes se cloisonnent. Si la réalité décrite par notre parabole ressemble étrangement à notre monde, quel message pouvons-nous en tirer pour notre actualité ? C'est ce que nous verrons dans un instant.
You cheated me. Sad, you're gonna be weeping.
Écoutez Radio Grand Ciel, l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Les pauses musicales sont extraites du CD de Norah Jones et Billy Joe, Foreverly. Nous parlons donc de cette parabole du riche et de Lazare. Et il y aura trois remarques à faire pour nous aider à entendre cette parabole. La première est que le pauvre est nommé. Il s'appelle Lazare, alors que le riche reste un anonyme. Cette remarque est d'autant plus étonnante qu'elle est à l'opposé de notre monde dans lequel les riches sont connus. Ils sont invités dans les émissions de télévision et leur vie est racontée dans les magazines, alors que les pauvres sont anonymes. Dans l'Évangile, à l'heure du solde des comptes, la vie du riche de la parabole ne vaut plus rien, alors que le pauvre est accueilli dans le sein d'Abraham. Jésus répète souvent que dans l'économie du royaume, les derniers sont les premiers, les petits sont les grands. Les pêcheurs et les prostituées occupent les places de choix et ce sont les serviteurs qui sont les vrais maîtres. Alors que naturellement nous sommes conduits à nous comparer avec ceux qui ont plus que nous, l'Évangile nous invite à détourner notre regard et à le porter vers ceux qui sont en bas. Ce sont eux les vrais grands. Comme l'a écrit Bonhoeffer à propos des chrétiens, cela reste une expérience d'une incomparable valeur que nous avons appris à voir les grands événements de l'histoire du monde à partir d'en bas, de la perspective des exclus, des suspects, des maltraités, des sans-pouvoir, des opprimés, des bafoués.
La seconde remarque est que l'enfer est décrit à partir de l'impossibilité de communiquer. L'enfer est présent lorsqu'il n'y a plus aucune communication, aucune relation entre les riches et les pauvres. Le philosophe Aristote disait que pour que la vie en société soit possible, il fallait un minimum de ce qu'il appelait la philia, que nous pouvons traduire par l'amitié entre les membres. Le commencement de l'amitié consiste à regarder le pauvre qui est à ma porte, à ne pas l'ignorer, à considérer qu'il relève du même monde que moi et qu'il m'appartient de l'intégrer dans ma sphère de préoccupation, car il est un sujet appelé à faire société avec moi. Lorsque les riches ignorent les pauvres, il n'y a pas d'amitié. Lorsque chacun cherche à faire la fête sans se soucier des autres, il n'y a pas d'amitié. Lorsque chaque prochain n'est pas considéré comme un sujet de droit aussi important que les autres, il n'y a pas d'amitié. Quand il n'y a pas ce minimum d'amitié entre les humains, c'est la porte ouverte à l'enfer.
La troisième remarque est que lorsque le riche demande à Abraham d'envoyer Lazare pour prévenir ses frères, ce dernier répond qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin de savoir dans la loi et les prophètes, c'est-à-dire dans les Écritures. Trop souvent, nous nous réfugions derrière le pseudo-silence de Dieu, derrière nos doutes et nos questions, pour justifier une vie orientée vers la satisfaction de notre confort et de notre petit égoïsme. Nous prenons le prétexte d'une prière non exaucée pour ne plus prier, le prétexte du manque de temps pour ne plus lire les Écritures, le prétexte de nos loisirs ou de notre paresse pour nous éloigner de toute pratique religieuse, le prétexte de la crise pour excuser notre manque de générosité. Trop souvent, nous disons que nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous, et nous en profitons pour ne rien faire. Mais la volonté de Dieu est extrêmement claire. Nous la trouvons par exemple exprimée dans ce verset du prophète Michée. « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée au chapitre 6, verset 8.
L'Évangile appelle au renversement des valeurs. L'Évangile tourne mon regard vers mon prochain, notamment vers le petit, et m'invite à faire société avec lui. L'Évangile m'appelle à trouver dans les Écritures la boussole et le phare de mon existence. À relire ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, nous voyons que les questions posées par cette parabole concerne rien de moins que l'orientation même de notre vie. Albert Einstein a dit « Je n'ai jamais considéré l'aisance et le bonheur comme des fins en soi. Un tel fondement éthique constitue à mes yeux un idéal de porcherie. Les idéaux qui ont éclairé ma voie et qui à maintes reprises m'ont rendu courage pour affronter la vie le cœur léger » ont été la bonté, la beauté et la vérité.
Le riche de la parabole, qui oriente toutes ses préoccupations vers les plaisirs de la fête, mène une vie digne d'une porcherie, selon cette citation. Nous sommes invités à changer notre regard pour l'orienter vers la bonté, la beauté et la vérité. Et nous reconnaissons ici les trois grandes vertus grecques que nous pouvons relire à travers le prisme de l'Évangile. La bonté, c'est être capable de voir le pauvre qui est à ma porte, à ne pas le considérer comme transparent, mais comme un frère en humanité. Dans cette dimension, la bonté s'ouvre sur la justice. La beauté, c'est la célébration de la vie. Elle nous appelle à nous élever au-dessus de la simple satisfaction de nos besoins matériels, pour donner du sens et du sel à ce que nous vivons. La philosophe Simone Weil a dit que la beauté du monde était le sourire de tendresse du Christ pour nous à travers la matière.
Enfin, la vérité. La vérité repose sur l'affirmation que notre vie ne se réduit pas à la simple satisfaction de nos besoins matériels et de notre désir de fête. La vérité de l'Évangile et que notre vie est aimée, précieuse, belle. Nous sommes fils et filles de la résurrection, appelés à devenir témoins de cet amour incroyable dont parle l'Évangile. Le monde, décrit par la parabole, est un monde petit, sale, mesquin, égoïste, dur, un monde où les uns sont des fêtards grossiers et les autres des malades abandonnés. Il nous appartient, au nom de l'Évangile de Jésus-Christ, de devenir les témoins d'un autre monde, un monde où les pauvres ne sont pas transparents, où les malades ne sont pas abandonnés, où la justice n'est pas une illusion. Un beau programme, ne trouvez-vous pas ?
Sitting alone in an old rocking chair, I saw an old mother with silvery hair. She seemed so neglected by those who should care. Rocking alone in an old rocking chair. Were all calloused and wrinkled and old. A life of hard work was the story they told. And I thought of angels as I saw her there, rocking alone in an old rocking chair. Bless her old heart, do you think she'd complain? Though life has been bitter, she'd live it again. And carry that cross that is more than her share. Rocking alone in an old rocking chair.
Dans l'Ancien Testament, nous trouvons une autre parabole qui peut nous rappeler celle du riche et de Lazare. Après que David a fait tuer Uri, l'époux de Bethsabée, pour cacher son adultère avec cette dernière, le prophète Nathan va le voir et il lui raconte l'histoire suivante, qui nous est relatée dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 12, les versets 1 à 15. Il y avait dans une ville deux hommes. L'un était riche et l'autre pauvre. Le riche avait de grands troupeaux de bœufs et de moutons. Le pauvre ne possédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un visiteur arriva chez le riche. Celui-ci évita de prendre une bête de ses troupeaux pour le repas. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour le visiteur. David entra dans une violente colère et dit à Nathan : « Le Seigneur est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et Nathan lui répondit : « Cet homme, c'est toi. »
Je vous invite à la prière. Lorsque nous écoutons ta parole et que nous entendons ton appel, nous avons tendance à penser qu'il s'adresse aux autres. Nous vivons dans un monde d'injustice où le fossé se creuse entre le nord et le sud, entre les riches et les pauvres, et déduisons que c'est la faute de l'égoïsme des hommes, des gouvernements, du pouvoir de l'argent et de la fatalité. Mais aujourd'hui, ta parole vient nous percuter. Cet homme, c'est moi. Ce riche qui refuse de partager, c'est moi. Ce croyant qui refuse d'ouvrir son cœur, c'est moi. Cet homme pressé qui refuse de s'arrêter, c'est moi. Ce propriétaire qui refuse d'ouvrir ses fenêtres, c'est encore moi. Alors pardonne-nous, Seigneur, fais-nous vivre de ta vie, élargis notre cœur, libère-nous de nos jalousies et délivre-nous de nos peurs. Amen.
Father dear, come bathe my forehead. For I'm growing very weak. Mother, let one drop of water fall. And
la grâce de l'Évangile, si difficile à comprendre, nous met en face de la vérité et nous dit, avec ce texte de Dietrich Bonhoeffer, « Tu es un pécheur, un très grand pécheur, incurablement. Mais tu peux aller tel que tu es à Dieu qui t'aime. Il te veut tel que tu es, sans que tu ne fasses rien, sans que tu ne donnes rien. Il te veut toi-même, toi seul. Alors réjouis-toi. En te disant la vérité, ce message te libère. Dieu veut te voir tel que tu es pour te faire grâce. Tu n'as plus besoin de te mentir à toi-même et de mentir aux autres en te faisant passer pour sans péché. Ici, il t'est permis d'être un pécheur. Remercie Dieu. »
Jean Chrysostome, un père de l'Église, a dit « Quand tu t'assieds pour lire les paroles de Dieu, demande-lui d'abord d'ouvrir les yeux de ton cœur afin de ne pas seulement lire les Écritures, mais aussi de les accomplir. » Nous sommes arrêtés pour ce temps de méditation. Nous avons prié pour que Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Nous avons médité ensemble les Écritures. Il nous reste encore un bout de chemin à parcourir. Que Dieu nous donne d'accomplir sa parole.
Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Il te donne d'accomplir les Écritures. Que sa lumière soit le phare sur tes chemins. Que sa parole soit le sel de ta semaine. Que sa grâce soit l'espérance de tes lendemains. Que son esprit t'inonde comme l'eau des fontaines. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au Temple, 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.